Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le livre a déjà bousculé le monde littéraire et médiatique avant même sa sortie prévue aujourd'hui. Le consentement de Vanessa Springora raconte sa relation sous emprise avec Gabriel Matzneff, plus de 30 ans son aîné. Nous analyserons dans un instant cette complaisance médiatique qui a existé face à la pédophilie.
Et puis nous reviendrons ensuite sur la réforme des retraites. Certains élus de la majorité espèrent que l'exécutif abandonnera l'âge pivot.
Carlos Ghosn a été aidé dans sa fuite par une société privée. Il a quitté le Japon pour le Liban malgré une assignation à résidence. Des perquisitions ont lieu ce matin à Tokyo.
Et puis dans ce journal, nous nous pencherons sur l'accord de coalition gouvernementale en Autriche. Les conservateurs s'allient aux Verts, une première.
Dans un quart d'heure enfin, le billet politique. Frédéric Saïs se demandera si Édouard Philippe est en train de devenir un fusible pour Emmanuel Macron. Ils ont 36 ans d'écart. Elle en avait 14 à l'époque des faits, lui 50. Une relation sous emprise entre l'écrivain Gabriel Matzneff et Vanessa Springora. Elle décrit cette relation dans un livre à paraître aujourd'hui. Un ouvrage justement intitulé. Il s'appelle « Le consentement ». Un enfant peut-il réellement consentir à avoir une relation sexuelle avec un adulte? Vanessa Springora dénonce la complaisance, en tout cas de la société, avec les affaires de pédophilie et particulièrement la complaisance du milieu littéraire. Gabriel Matzneff n'a en effet jamais caché ses relations sexuelles avec des enfants, filles et garçons de moins de 15 ans. L'un de ses derniers ouvrages a même été couronné en 2013 par le prix Renaudot. La pédophilie était promue dans les années 70, dans les écrits et les médias. Et notamment, oui, sur France Culture, il y a plus de 40 ans, Cécile de Kervas-Doué.
Dans les années 70, portées par une génération d'intellectuels qui voulaient pousser plus loin la libération sexuelle, des dizaines de pétitions ont demandé une plus grande liberté sexuelle pour les enfants. Parmi elles, celle de janvier 77, publiée dans le journal Le Monde et écrite par Gabriel Matzneff, qui fait l'apologie de la pédophilie quand les enfants de moins de 15 ans sont consentants. Cette pétition est signée par 69 intellectuels, dont Louis Aragon, Simone de Beauvoir, Patrice Chéreau, Bernard Kouchner, Jack Lang ou encore Guy Hockenheim, qui le 4 avril 1978 participait à l'émission Dialogue sur France Culture, une émission dans laquelle il défendait, aux côtés de Michel Foucault, la décriminalisation des relations sexuelles entre adultes et mineurs de moins de 15 ans.
Nous avons un ami qui s'appelle Gilbert Villereau. Gilbert Villereau est inculpé pour des faits qui sont extrêmement minimes, extrêmement légers, à savoir avoir simulé une masturbation devant des enfants, et d'autre part d'avoir commis un attouchement sur l'organe sexuel d'un des gamins qu'il a rencontré au cours d'une promenade à vélo. Fait extrêmement léger qui, dans n'importe quelle autre circonstance, à Paris notamment, n'aurait même pas valu la détention préventive.
L'idée défendue notamment dans l'émission par Michel Foucault est qu'il faut écouter l'enfant, qu'il a le droit au plaisir sexuel, le droit d'aimer charnellement un adulte. Et ce courant n'a rien d'une exception dans l'histoire de la société française, considère l'historienne spécialiste de la pédophilie, Anne-Claude Ambroise-Rendu, au micro de Fiona Mogadam.
L'idée que le crime sexuel c'est une chose grave est une idée très récente, qui est liée à la prise en compte de la réalité de ce que c'est qu'un enfant, qui est liée aussi à la dénonciation du patriarcat et de la domination masculine. Jusqu'au milieu des années 80, l'utilisation du corps des enfants depuis des millénaires rentrait dans une espèce d'ordre admis.
La plupart des intellectuels pro-pédophilie ont cessé après les années 80 d'afficher de tels points de vue, à l'exception notable de Gabriel Matzneff qui en 2013 fustigeait le revirement hypocrite de tous les anciens signataires.
Et qu'en est-il de la loi? Que disent-elles sur la pédocriminalité? De l'attentat à la pudeur en 1810 jusqu'au refus du gouvernement en 2018 d'inscrire un âge minimal de consentement dans la loi. Histoire détaillée à retrouver en une de notre site franceculture.fr. J'ajoute que Vanessa Springora, auteur du consentement publié aujourd'hui, sera notre invitée demain dans les matins de France Culture. La grève contre la réforme des retraites entre ce jeudi dans sa 29e journée, égalant ainsi le plus long blocage des transports depuis 1986-87. Et ce jeudi encore, aucun compromis ne se profile. Le 31 décembre au soir, Emmanuel Macron a redit sa détermination à mener cette réforme à son terme. Les négociations avec les syndicats doivent reprendre mardi prochain. Y aura-t-il un accord sur l'âge pivot? Si les syndicats sont sceptiques, la majorité présidentielle, elle, veut y croire. À l'image de Jean-François Césarini, député du Vaucluse, qui avait signé avec une quinzaine de collègues une tribune pour abandonner cet âge pivot. Il estime qu'Emmanuel Macron les a entendus.
Une phrase dans le discours nous donne plutôt raison et nous dit qu'on a dû être entendu. Cette phrase, c'est « Nous prendrons en compte les tâches difficiles pour permettre à ceux qui les exercent, donc par rapport à la pénibilité, de partir plus tôt que nous demandons dans la tribune. Et la fin de la phrase est aussi importante, sans que cela soit lié à un statut ou à une entreprise, ce qui va d'ailleurs à l'encontre de ce qu'avait dit le Premier ministre, disant que la pénibilité devait être ouverte aux régimes spéciaux et aux fonctionnaires. Là, le président de la République va beaucoup plus loin. Suivant la pénibilité, suivant la dureté des métiers que l'on a pu faire, on pourra partir plus tôt. Ce qui veut dire, de fait, que c'est pour nous, en tout cas théoriquement, la fin d'un âge pivot. En tout cas, d'un âge pivot pour tous. Là, on est plutôt sur un âge d'équilibre qui serait variant, suivant effectivement les parcours de chacun.
Des propos recueillis par Stanislas Vazak. Et en plein conflit sur cette réforme des retraites, on apprend que le patron d'un fonds de pension vient d'être promu au grade d'officier de la Légion d'honneur. Il s'agit de Jean-François Cirelli, président de BlackRock France, filière française du plus grand gestionnaire d'actifs au monde. Elle a même fait ses recommandations au gouvernement français dans la loi Pacte à propos de la réforme de l'épargne retraite. De quoi alimenter les soupçons de collusion. La réforme à venir est en tout cas une opportunité pour ce fonds de pension. Marie Viennot l'avait largement expliqué dans sa bulle écho sur France Culture il y a 10 jours. Un article fourni, argumenté, à retrouver sur franceculture.fr. Décloisonner les institutions pour gagner en efficacité. Voilà l'un des credos du gouvernement et cela s'applique en ce début d'année au service des stupes. L'Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants devient l'OFAST, l'Office anti-stupes. Cette nouvelle structure donne une place plus large aux gendarmes, magistrats et douaniers. L'idée, Isabelle Souquet, est aussi d'éviter les collusions, scandales qui ont éclaboussé la lutte anti-drogue ces dernières années.
En octobre 2015, les douaniers saisissent 7 tonnes de cannabis dans les fourgonnettes garées boulevard Exelmans, en plein Paris. Une prise tellement exceptionnelle que le président Hollande viendra sur place saluer leur travail. Cette saisie deviendra pourtant très vite l'exemple des dérives d'un service. À l'époque, les policiers travaillent avec des indics qu'ils suivent au plus près pour pouvoir intervenir pile au moment où commanditaires et revendeurs rentrent en contact, une façon de travailler qui donne de très bons résultats. Mais dans cette affaire, l'enquête montrera que la relation flic-indique a largement dérapé. Le patron des stupes, commissaire aux brillants états de service, sera mis en examen pour complicité de trafic de stupéfiants. Il aurait aussi organisé une fausse garde à vue de son plus gros informateur. L'OFAST, qui veut tourner la page de ce type d'affaires, est dirigé par la conseillère justice du directeur général de la police nationale. Elle est secondée par un magistrat. Son numéro 3 est un douanier, preuve de la coopération renforcée des services et de la volonté de mutualiser les effectifs. L'OFAST, avec 150 enquêteurs, coordonnera 16 antennes territoriales. Il s'appuiera sur les CROSS, les cellules de renseignement des stupes, qui vont aussi monter en puissance. Et la tâche est titanesque. Le marché des stupéfiants est le premier marché criminel du pays, estimé à 3,5 milliards d'euros.
Isabelle Souquet. On apprend ce matin qu'une perquisition est menée à Tokyo, au domicile de Carlos Ghosn. Cela fait suite à sa fuite au Liban en début de semaine. L'ancien patron de Renault-Nissan, accusé de malversation financière, donnera une conférence de presse mercredi prochain depuis Beyrouth. Et nous apprenions hier que sa fuite avait été préparée par son épouse, exécutée par une société privée de sécurité. Au Liban, son pays d'origine, il n'y a aucun accord d'extradition avec le Japon et aucune poursuite contre lui. Ghosn paraît donc intouchable. Une toile savamment tissée selon Sibyl Rixk, interrogée par Aurélien Colli. Elle est analyste pour un groupe d'influence libanais et ancienne journaliste économique.
Il a entretenu un lien avec le Liban et il a presque mis en scène son retour au Liban. Il venait régulièrement pour des conférences. Il a réalisé quelques investissements au Liban dans les secteurs qui sont la banque, l'immobilier, le vin, qui donne une certaine patine. Grâce à sa notoriété, il a donc entretenu des amitiés essentiellement dans les milieux d'affaires, mais aussi dans la bonne société libanaise. Il a des biens ici, il a sa famille ici, en tout cas la famille de sa femme. Il bénéficie d'un certain respect de sa vie privée. Donc oui, si j'étais lui, j'aurais fait le même choix.
8h09 sur France Culture, c'est la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Sébastien Kurz en Autriche va reprendre son poste de chancelier.
Il a gouverné jusqu'en mai dernier avec l'extrême droite. C'est maintenant une alliance avec les Verts qui lui rouvre les portes de la chancellerie autrichienne. Le conservateur de 33 ans, Sébastien Kurz, a en fait conclu un accord hier soir avec les écologistes. Accord inédit, Ludovic Piétenu.
Ils promettent à la fois de protéger le climat et les frontières, de réduire les impôts tout en rendant la fiscalité plus écologique. Voilà deux lignes extraites du contrat de coalition signé tard hier soir qui scelle cette alliance entre des conservateurs à la ligne politique très libérale et des écologistes ancrés à gauche qui prennent ici la place historiquement dédiée aux sociodémocrates depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une coalition inédite qui avait déjà failli se produire dès 2003, mais les discussions d'alors avaient échoué. Les Verts ont longtemps parlé de ce moment comme d'un traumatisme, avec à l'époque, comme conséquence, le maintien de l'extrême droite au gouvernement. 16 ans plus tard, cette même extrême droite, alliée aux conservateurs de Sébastien Kurz dans le précédent gouvernement et pourtant affaiblie électoralement par les scandales, était une fois encore en embuscade, mais cette fois les écologistes, portés par un résultat record de près de 14%, ont fait un choix pragmatique. Ils ont pris le temps nécessaire, 3 mois, pour discuter avec leur futur allié et, sans totalement se renier, atténuer au maximum les énorme différence de vue entre eux et les conservateurs sur des sujets comme l'immigration ou la politique économique. Le chef de file des conservateurs a qualifié cet accord d'excellent. « Nous sommes parvenus, disait-il hier soir, à réunir le meilleur des deux mondes. Ce tandem n'a rien d'évident, mais dans la durée, les Verts misent sur la démocratie parlementaire qui oblige chaque partenaire à des compromis. »
C'était Ludovic Piétenu, correspondant de France Culture à Berlin. Penchons-nous à présent sur un gazoduc sous-marin, l'un des plus profonds du monde. Il s'appelle EastMed. C'est un projet, en tout cas, qui ferait 2200 km de long, de la Méditerranée orientale jusqu'en Italie. L'accord définitif pour valider ce projet doit être signé aujourd'hui entre la Grèce, Chypre et Israël. Mais la Turquie veut tout faire pour l'annuler. Eric Biegala nous explique pourquoi.
Le gazoduc EastMed devra acheminer vers l'Europe les milliards de mètres cubes de gaz des gisements découverts ces dernières années en Méditerranée orientale, au large d'Israël, de l'Égypte et surtout de Chypre. C'est là que le bât blesse. Car depuis les premières découvertes des gisements chypriotes en 2010, la Turquie, qui occupe militairement le nord de l'île où une république turque de Chypre-Nord a été proclamée, revendique de pouvoir elle-même prospecter la zone offshore et à terme d'en exploiter les gisements. Elle n'hésite pas à envoyer ses navires d'exploration et de forage, escortés de navires militaires dans les eaux chypriotes pour y défendre ce qu'elle considère comme son droit. Quant au gazoduc EastMed, Ankara a décidé de s'y opposer en signant, fin novembre, un protocole d'accord avec le gouvernement libyen quant aux zones économiques exclusives des deux pays en Méditerranée. Des zones qui se partagent la Méditerranée en deux, du nord au sud, font fi des zones économiques exclusives de la Grèce et même de l'Égypte, et permettent surtout au président Erdogan d'annoncer qu'il s'opposera ainsi à tout gazoduc transitant par la nouvelle zone économique exclusive turque. Le risque d'escalade n'est pas mince. Quelques jours plus tard, début décembre, un navire de prospection israélien travaillant pour Chypre était expulsé des eaux chypriotes par la marine turque. En réponse, les chasseurs israéliens harcelaient un navire de forage turc le 15 décembre dernier. Quant à l'Union européenne, qui serait le principal bénéficiaire et sans doute le principal financeur de ce gazoduc EastMed, elle a bien, en réponse au forage turc dans les eaux chypriotes suspendues cet été, quelques enveloppes budgétaires destinées à la Turquie et évoque d'éventuelles sanctions contre ses dirigeants, mais n'a pas fait mine pour le moment d'aller plus loin.
Des villes entières sont évacuées en ce moment à l'approche d'un nouveau pic de chaleur en Australie. Cela favorise la progression des immenses incendies. Des milliers de touristes ont donc 48 heures, pas plus, pour quitter certaines zones sur la côte sud-est du pays. Les feux ont provoqué la mort d'au moins 8 personnes ces 2 derniers jours. En Suisse, le climat est plus clément et heureusement la forêt ne brûle pas. Elle est même utilisée comme terrain de jeu par des enfants de 2 à 6 ans. Une crèche, l'équivalent d'une école maternelle en France. Une crèche accueille une trentaine d'enfants près de Genève, un concept qui séduit énormément, et notamment notre correspondant Jérémy Lanche, qui a rencontré les chanceux enfants.
Je crois que j'ai trouvé un champignon qui s'est planté là-dedans.
Oui, ça c'est un champignon.
C'est du bleu. Ça fait joli.
Les températures sont encore relativement douces dans la campagne suisse en ce début d'hiver. Ruben et son ami Ernest peuvent donc essayer de débusquer encore quelques champignons ou bien terminer la construction de leur cabane en bois. Dans la nature, ce ne sont pas les activités qui manquent. Charles de Planta est le responsable de la crèche en forêt.
On peut parler du miel, par exemple, des abeilles. On peut autant avoir des livres, on peut présenter du miel, on peut goûter du miel, on peut aller se balader un peu plus haut, il y a des ruches. Donc on peut aller les observer, donc on arrive à faire des activités avec plusieurs pans. pans du développement qui sont représentés. Ça, c'est très très riche.
Ici, la météo est vue comme une variable, pas du tout comme un problème. Chaque saison amène son lot d'activités. Chloé Protet est l'une des animatrices.
Ils ont tout l'environnement pour pouvoir se développer, dépasser des défis que forcément un espace à l'intérieur offre moins. Moi, j'ai toujours une petite sensibilité quand il y a un enfant qui m'a demandé plusieurs fois le nom d'une plante, d'un champignon, de quelque chose, et puis qui va expliquer après aux autres, ça les fait grandir.
Les éducateurs l'assurent, dans la nature, les enfants se développent mieux et plus vite. Un constat partagé par Nathalie, la maman de la petite Anita.
Elle avait un petit côté Pierre Richard. C'était pas le froid que je craignais ou les intempéries, c'était plutôt qu'elle se fasse mal. Mais en fait, j'ai bien remarqué très vite que la manière de se mouvoir dans l'espace a changé depuis qu'elle est à l'éco-crèche. Elle s'est ouverte.
Une centaine d'enfants sont inscrits sur liste d'attente. L'association à l'origine de la crèche espère maintenant ouvrir une école en forêt cette année à Genève.
Et ce peut être un temps à aller en forêt ce jeudi 2 janvier en France métropolitaine. Le soleil se fait une place sur la moitié sud du pays. Au nord de la Loire, les pluies matinales devraient s'estomper dans l'après-midi, laissant tout de même de gros nuages. Il fait moins 1 degré ce matin à Strasbourg, 1 à Lyon, 5 degrés à Bordeaux, 6 à Paris et 9 degrés à Marseille.
Merci Clara Lecoq-Réal. Il est 8h15 sur France Culture, où on peut tout à fait aller se balader en forêt pour parler politique. Non, si je vous dis ça, c'est parce que notre invité Pierre Charbonnier publie Abondance et liberté, une histoire environnementale des idées politiques. Et on va évoquer avec lui la manière dont précisément la question politique en Australie, par exemple, dont il a été question, mais même de manière très concrète avec, par exemple, la question de la réforme des retraites et des différentes grondes qui ont été au cœur de l'actualité en France, comment celle-ci s'articule avec la pensée écologique. Et puis, il y aura dans quelques instants un billet politique avec vous, Frédéric Saïs. Bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Frédéric, Emmanuel Macron demande au gouvernement de trouver un compromis rapide quant à la réforme des retraites.
Oui, retour au format classique du billet politique ce matin, et le président de la République qui prend ses distances avec son premier ministre. On va tenter de comprendre pourquoi.